Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose un récit au cœur de l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. Pour situer dans le temps, c'est environ 860 ans avant la naissance de Jésus, c'est à peu près 600 ans après la sortie d'Égypte et l'installation de la descendance d'Abraham dans le pays de Canaan. Le Dieu d'Israël vient de permettre à Akab, roi d'Israël, de repousser une attaque de son voisin syrien, Ben-Hadad, et même de le vaincre. Contre la volonté de Dieu, Akab épargne la vie du Syrien, vaincu, et conclut des accords commerciaux avec le pouvoir de Damas en Syrie. Mais la menace d'une nouvelle attaque du royaume d'Israël par le voisin du Nord faiblit, et Akab est rentré chez lui, dans son palais de Jizréel, au cœur d'une vallée agricole prospère et fertile. Nous lisons 1 Roi 21, versets 1 à 16. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel. Je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. D'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Une histoire. Trois personnages principaux au cœur de l'Ancien Testament. Akab, le roi d'Israël, Jézabel, sa femme, reine d'Israël, Naboth, le vigneron. Akab est le fils d'Omri, chef de l'armée d'Israël, qui a pris le pouvoir et fondé une nouvelle dynastie en éliminant le roi descendant de la lignée de David. D'Omri, la Bible dit, 1 Roi 16, versets 25 et 26. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toutes les voies de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et d'Akab, on dit, 1 roi 16, versets 29 à 32, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jézabel, phénicienne, originaire de Sidon, est devenue la femme d'Akab. Ce mariage princier a certainement permis également d'établir et de consolider des échanges, le commerce, la dynamique économique et culturelle, et en même temps l'introduction des cultes idolâtres au sein même du peuple d'Israël. Les succès militaires, les alliances diplomatiques, les traités commerciaux génèrent une indifférence de plus en plus marquée à l'égard de la loi de Dieu et aux messages et avertissements des prophètes. Akab, encouragé par Jézabel, essaye en permanence de s'affranchir de la volonté de Dieu pour lui, roi d'Israël, et pour son peuple, dans le seul but de développer son pouvoir, sa richesse, son confort et son bien-être personnel. Totalement ouvert à la mondialisation de l'époque et à la primauté de l'économie sur la justice sociale et les relations interhumaines de qualité, empreintes de justice et d'équité. Naboth, le vigneron, probablement quand même un notable de Jizréel, attaché à son terroir, éduqué et formé dans la tradition de la loi juive et respectueux de l'Éternel Dieu d'Israël, malgré le contexte contemporain empreint d'idolâtrie. Revenons à notre récit. Akab a déjà subi 3 années de sécheresse et de famine suite à l'annonce du prophète Élie et pour sanctionner le déploiement du culte idolâtre de Baal et d'Astarté. Sa capitale, Samarie, a été plus touchée par la famine que la vallée de Jizréel. C'est pourquoi il établit un deuxième palais à Jizréel pour éventuellement déplacer la capitale de son royaume, construite par son père. Un potager à proximité de son palais pourrait contribuer à la sécurité alimentaire de sa cour royale. Il propose une simple transaction immobilière qui ne choque personne de nos jours, un terrain pour un autre, même de plus grande valeur, ou de l'argent en contrepartie du bien. Ça paraît honnête, et on ne voit même pas pourquoi le récit figure dans la Bible. Naboth répond au roi Akab que la transaction en Israël est impossible. Cette parcelle, il la cultive parce que c'est un héritage de ses pères, un bien qui ne se monnaie pas, la proximité ou l'éloignement du palais ne joue aucun rôle. Le refus est net. L'Éternel n'agrée pas ce genre de transaction en terre d'Israël. Même si le texte ne le dit pas, Akab s'est rendu compte qu'en Israël, il y avait encore, et peut-être de nouveau, des personnes qui se soumettent aux lois israéliennes prescrites par Dieu le Créateur. Élie lui avait déjà barré la route plusieurs fois. Il était intervenu violemment pour réduire l'idolâtrie de l'époque. Et là, un petit vigneron, même s'il est un notable prospère de la ville de Jizréel, s'oppose au nom de l'Éternel à un échange de parcelles. Contrarié, Akab rentre au palais triste et irrité, c'est marqué au verset 4. Justement, il était déjà triste et irrité au verset 43 du chapitre précédent. Il était irrité parce que le prophète lui avait fait voir qu'il avait mal fait de laisser en vie son adversaire, le Ben-Hadad de Syrie. Lorsque le prophète lui reproche son copinage avec Ben-Hadad de Syrie, c'est là qu'intervient Cruella, pardon, Jézabel.
Oui, mais il est.
Celle qui s'était jurée de décapiter le prophète Élie suite à la confrontation publique des serviteurs des idoles et du prophète de l'Éternel. Sans hésiter, elle promet à son mari d'arranger l'affaire. Elle s'occupe de tout. Et ça, et là, c'est le festival sans limite. Convoitise de la ville de Naboth, le point de départ du drame. Abus de pouvoir, faux et usage de faux, usurpation d'identité, lettre écrite avec le sceau d'Akab, faux témoignage avec deux témoins pour accuser Naboth de blasphème et d'outrage, meurtre par la lapidation de Naboth, et pour finir, le vol de la parcelle. La prise de possession de l'objet convoité. Efficace et sans état d'âme. La loi de Moïse, les 10 commandements donnés par Dieu après la sortie d'Égypte, sont foulés aux pieds, bafoués, sans aucune forme de remords ou de regret. Jézabel, la loi d'Israël, ce n'est pas sa culture, ce n'est pas sa tradition. Elle vient de Sidon, elle est phénicienne, de tradition païenne. Le pauvre Naboth, calomnié publiquement, accusé injustement et lapidé odieusement, paye de sa personne son attachement aux valeurs du peuple d'Israël et sa fidélité à la loi de l'Éternel. Que penser de ce récit, de cette tranche de l'histoire des rois d'Israël? Certes, Akab était le fils d'un père qui faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et marié à Jézabel, qui a œuvré toute sa vie pour implanter durablement le culte païen en Israël. Circonstance atténuante. Mais non, les confrontations avec le prophète Élie auraient pu l'interpeller. Mais il est devenu un voleur et un assassin, puisqu'il n'a pas empêché Jézabel de commettre son forfait. Le crime ne reste pas impuni. Élie prononce la sanction au nom de l'Éternel. Akab et son camp et son clan seront exterminés et Jézabel sera mangée par les chiens. Vous savez comment elle est morte? Jézabel. Donc, en fait, un peu plus tard dans l'histoire, il y a eu un nouveau coup d'État, prise de pouvoir d'un certain génie. Et quand il s'est approché du palais du Jizréel, il a dit « S'il y a des copains dans la boutique, là, vous la balancez par la fenêtre. » Donc il a trouvé deux mecs qui ont balancé par la fenêtre. Donc Jézabel est tombée par terre, morte. Et le lendemain, ils ont dit « Il faudrait peut-être qu'on aille la ramasser. » Et elle était déjà mangée par les chiens. Donc la prophétie de Élie s'est réalisée et Jézabel est morte violemment et mangée par les chiens. C'était une parenthèse, mais c'est la suite de l'histoire. Si on se contente d'une interprétation au premier degré, on va retenir que si Akab n'avait pas été un homme faible et influençable, le drame aurait pu être évité. Si Naboth n'avait pas été obstiné pour refuser l'échange, il aurait pu continuer de jouir du fruit d'une autre vigne. Et pour finir, si Jézabel aurait été une reine soumise à son mari, le stratagème n'aurait pas été réalisable. Ce serait vraiment passé à côté de ce que l'Ancien Testament nous révèle. Je cite Émile Nicole, doyen et professeur de l'Ancien Testament à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Il dit « On se contente trop souvent de grappiller ici ou là dans le texte pour se donner la satisfaction d'un appui biblique à des orientations éthiques préalablement arrêtées. » On pourrait s'en servir comme ça se faisait il y a 50 ans, pour dire que les femmes feraient mieux de rester dans l'ombre de leur mari. Enfin, je n'y oserais pas. Ça ne serait plus de nos jours. on n'est plus là-dedans. Hein. Mais lorsque Naboth dit « Que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres », il rappelle avec force la particularité de la relation du Dieu d'Israël avec les descendants d'Abraham et la particularité de la relation des Israéliens avec leur terre. Dieu a choisi Abraham pour faire alliance avec lui et toute sa descendance. Dieu veut une relation avec les humains qu'il a créés. Dieu donne la terre, le pays de Canaan, pour son peuple. Genèse 17, verset 8. Il parle à Abraham et lui dit « Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu choisit un homme dont la descendance formera une nation qui s'établira sur une terre et dont la mission est d'être une nation organisée politiquement, militairement, socialement, économiquement, de façon exemplaire pour être en bénédiction pour les autres nations. Dieu est un Dieu de rédemption. On a souvent l'impression que dans l'Ancien Testament, les mauvais comportements des humains finissent toujours par une grosse colère destructrice de Dieu. Déluge, Sodome et Gomorre, les revers militaires de la conquête du pays, l'exil du peuple d'Israël à Babylone, pour citer quelques exemples. Mais en réalité, Dieu est, dès l'origine, un Dieu de rédemption. La sanction annoncée n'est pas toujours exécutée, y compris pour Akab, dans l'immédiat, qui reconnaît avoir mal agi par rapport à Naboth. 1 Roi 21, versets 28 et 29, on va le lire. Donc, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Vous savez comment Akab est mort ? Non. Point. Pour le savoir. Il est, après, dans le chapitre d'après, il s'est fait une expédition militaire. Et comme on lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il aille le faire... Il a dit, bon, ben, je vais me déguiser, comme ça, ils ne sauront pas que je suis le roi. Et puis, malheureusement, il a pris une flèche perdue. Voilà, il a pris une flèche perdue alors qu'il était déguisé et non repérable. Donc, il est mort violemment également, mais en décalé. Le mal étant fait, la sanction est prononcée, le jugement est exécuté. Mais il y a toujours une possibilité, une ouverture pour que l'homme améliore sa relation avec Dieu. En Égypte, le peuple d'Israël était esclave de Pharaon. Dieu permet la libération du peuple et renouvelle son alliance pendant la traversée du désert. Dieu lui-même donne la législation qui doit permettre à Israël d'être une nation avec une organisation politique, religieuse, culturelle et économique exemplaire pour les autres. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu pour les hommes, il convient que nous nous intéressions à ces livres de l'Ancien Testament qui nous révèlent ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu donne le pays de Canaan pour que les 12 tribus s'installent dans ce territoire. La répartition des terres est faite selon les tribus, les clans et les familles. Les règles fixées dans Lévitique 25 en particulier disent clairement au verset 23 « Les terres ne se vendront pas à perpétuité ». Il existe un droit de rachat pour celui qui a été amené à vendre et, au moment de l'année du jubilé, tous les 50 ans, les terres cédées reviennent dans le giron familial automatiquement. La concentration, l'accumulation personnelle de richesses n'est pas voulue, n'est pas possible. Naboth respecte la loi donnée par l'Éternel. Jézabel connaît également la loi israélienne, mais ne la respecte pas. Pour elle, comme pour les nations voisines d'Israël à l'époque, le roi est propriétaire absolu de la terre et en dispose comme il l'entend. C'est le pouvoir absolu. Les deux systèmes s'opposent et sont en conflit. Il en va du droit d'un membre du peuple de Dieu à conserver la part de l'héritage national que le Seigneur a octroyé à sa famille. C'est pourquoi Akab ne put se procurer la vigne de Naboth qu'en l'accusant faussement de blasphème, car ce crime le faisait déchoir de son appartenance au peuple de Dieu. La loi du peuple d'Israël, avec ses nombreuses interdictions et obligations, était destinée à faire de la nation israélienne une nation exemplaire dans tous les domaines, pour que la promesse faite à Abraham, Genèse 12, verset 3, devienne une réalité. Que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Cette bénédiction concerne le domaine matériel, spirituel et social. Israël ne devait pas imiter ou reproduire les modèles égyptiens ou cananéens. L'organisation sociale et économique voulue par Dieu a souvent été mise de côté par son peuple. La convoitise, la cupidité, l'abus de pouvoir et la violence ont toujours suscité l'intervention des prophètes. le repentir, la reconnaissance du péché, la demande de pardon sont toujours accueillis avec bienveillance par l'Éternel, génération après génération. Tout au long de l'Ancien Testament, il est rappelé que chaque être humain a des droits et des devoirs envers Dieu et envers les autres. La veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre doivent bénéficier de notre bienveillance et de notre solidarité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Le droit et la justice doivent être notre priorité. L'oppression, l'exploitation, l'injustice doivent être dénoncées. La terre, la richesse, les biens matériels appartiennent à Dieu et elles sont destinées à tous les hommes et femmes pour qu'ils vivent dans la paix et la justice. Cette conception fonde une société du vivre ensemble heureux, sous le regard et dans la présence de Dieu au quotidien, et pas seulement lors de shoots spirituels ponctuels dans la prière et la louange. Conclusion. En Matthieu 5, au verset 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, ne nous dispense pas de chercher dans l'Ancien Testament ce que Dieu attend de ses créatures. L'histoire est en marche. L'humanité ira là où Dieu la conduira, malgré la révolte des humains. Galates 3, verset 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ce texte suggère bien qu'aujourd'hui, c'est l'Église, le peuple de Dieu, pour être en bénédiction pour toutes les nations de la terre, se doit d'être exemplaire, non seulement dans le domaine spirituel et théologique, mais également dans le domaine économique, social et culturel. Que Dieu nous aide à combattre et dénoncer le mal, nous donne la force de faire le bien selon sa volonté. Amen.